À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Numéro 2. Le règne de Dieu dans l'enseignement de Jésus. Le royaume de Dieu constitue le grand thème de l'enseignement de Jésus, et particulièrement des paraboles. Avant d'entreprendre une étude de celle-ci, il sera instructif de rechercher à quoi se rattache, pour le peuple juif, un tel enseignement. Définition du mot règne dans la Bible. On peut distinguer une double signification au mot royaume. 1. Sa signification abstraite. Au sens propre, le mot signifie royauté, autorité royale, règne, ou souveraineté. Voici l'idée principale de ce terme dans la Bible, la puissance souveraine de Dieu qui se manifeste dans le monde. Il exprime le fait que Dieu règne en roi. De sa signification concrète. Puisqu'on ne peut pas régner sur rien, ce mot implique aussi l'idée du territoire, domaine ou communauté, gouverné par le roi. Ce sens dérivé est attesté dans la Bible mais reste généralement au second plan. La tendance à utiliser le terme royaume au lieu de l'expression des évangiles le règne de Dieu trahit peut-être la présupposition inconsciente que l'idée principale est celle d'une société bien ordonnée, voire utopique, tel est, par exemple, l'usage du mot chez les millénaristes. Mais dans la Bible, l'expression le règne de Dieu désigne habituellement Dieu exerçant son autorité royale parmi les hommes. Par conséquent, nous utiliserons dans cette étude le terme règne au lieu de royaume. Le règne universel et particulier de Dieu. L'autorité royale de Dieu s'étend sur tout l'univers parce que c'est lui qui en est le créateur et le propriétaire légitime. Chronique 29, 11, à toi, éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Le règne du Dieu créateur est donc universel et éternel, il englobe la création physique, tous les anges, tous les hommes et toutes les nations. Qu'ils le veuillent ou non, tout être et toute chose se trouve soumis au roi divin. On appellera cet aspect de la souveraineté de Dieu son règne universel. À l'intérieur du règne de Dieu se trouvent deux classes d'hommes, les sujets du roi qui ont sa faveur et les sujets qui ne l'ont pas, les sujets justes et les sujets injustes. Avec les justes, Dieu a une relation plus étroite que nous appellerons son règne particulier. Le roi créateur a demandé aux hommes l'obéissance à sa loi royale, mais hommes se sont rebellés. Théoriquement, Dieu avait deux solutions possibles. 1. Détruire complètement sa création et recommencer à zéro, ou 2. Faire en sorte que le sujet, bien que maintenant transgresseur de la loi, soit rendu agréable au roi. Nous savons laquelle des deux possibilités Dieu a choisi. Il a mis à exécution son plan de rédemption qui lui coûterait son fils unique. Ce plan ne devait pas seulement avoir pour résultat un rebelle pardonné, mais aussi un sujet obéissant, pas seulement le salut, mais aussi la sainteté. Dieu voulait créer une nouvelle race d'hommes portant en eux l'image de son Fils. Le règne et trois alliances de l'Ancien Testament afin de réaliser le dessein bienveillant qu'il s'était proposé, Dieu a traité plusieurs alliances avec les hommes. Nous allons en considérer trois en fonction de la notion du règne. 1. L'alliance avec Abraham. Dieu a choisi Abraham et lui a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance, qui est, bien entendu, Christ, Galates 3:16. Cette alliance a été établie avec Abraham 430 ans avant la naissance de la nation d'Israël à Sinaï et avant la promulgation de la loi de Moïse, elle était donc indépendante de la loi. 2. L'alliance avec Israël. Avant de sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël sont, tout comme les autres peuples de la terre, soumis au roi divin. Et pourtant, quand le peuple arrive au mont Sinaï, Dieu l'invite à entrer dans une relation particulière avec lui, il sera leur roi, et les Israélites seront son royaume. Exode 19, 5 à 6, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Comme on peut le constater dans ce texte, « Toute la terre est à moi », Dieu n'abandonnait pas sa souveraineté sur le monde pour autant, il établissait simplement un régime particulier pour Israël. Il y avait donc un royaume à l'intérieur d'un royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu sur Israël à l'intérieur du règne universel de Dieu. Israël, toutes les nations, y compris Israël, règne universel schéma numéro 2. Règne particulier. Il est important de ne pas confondre cette alliance avec celle qui existait entre Dieu et Abraham, Galates 3:15 SS. Ce sont deux pactes distincts et indépendants l'un de l'autre, bien que Dieu ait utilisé le second pour accomplir le premier. 3. L'alliance avec David. Environ 400 ans après Sinaï, Dieu choisit David pour être roi sur Israël et conclut une alliance avec lui et sa descendance. Quels en sont les termes? Psaume 89, 4 à 5, 31 à 38, « J'ai conclu une alliance avec mon élu, J'ai fait un serment à David, mon serviteur, j'affermirai ta descendance pour toujours et je bâtirai ton trône de génération en génération. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute par des coups, mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité, je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa descendance subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il sera établi pour toujours, le témoin qui est dans la nuée fidèle. Dieu en fait serment à David, l'un de ses descendants siégera éternellement sur son trône. Et il jure solennellement de ne pas revenir sur sa promesse, même si les descendants de David se rebellent. Le droit de régner sur Israël est donc donné à la maison de David. Notez pourtant les clauses punitives de cette alliance, si les fils de David se détournent de la loi divine, Dieu interviendra pour les châtier, sans pour autant violer sa promesse. Voilà, en effet, ce qui s'est passé, essentiellement en trois étapes. A. La division du royaume. Dieu dit à Salomon à cause de son idolâtrie, 1 Rois 11h11, 13, 39, « Je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur, Jéroboam. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David, j'humilierai par là la descendance de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Cette division du royaume n'était qu'un châtiment et ne devait pas être permanente. Le droit de régner sur toute la nation d'Israël appartenait toujours à la maison de David. B. La disparition d'Israël du Nord. Par la suite, la méchanceté du royaume du Nord atteint son comble, et Dieu le détruit par l'intermédiaire des Assyriens. Le prophète Osée prédit ainsi la chute d'Israël du Nord, Osée 3, 4 à 5, « Car les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Le royaume du Nord ne devait jamais renaître en tant que royaume indépendant, mais reviendrait à la maison de David, à la famille royale légitime. De nombreuses prophéties parlent de la réunification des deux royaumes sous un descendant de David, Ézéchiel 37, 15 à 28, Jérémie 33, 14 et 16, etc. C. La déposition de la lignée royale de David en Juda. Les péchés des rois de Juda étant eux aussi arrivés à leur comble, Dieu les déposait mais les Juifs sous la domination de païens. C'était toujours Dieu qui régnait sur Israël, mais par l'intermédiaire d'étrangers, avec la chute de Jérusalem en 586 avant J.-C., le dernier roi judéen, Sédécia, cesse d'exercer le pouvoir sur Israël. En punissant ainsi les Juifs, Dieu n'a pas violé son alliance avec David, il en appliquait simplement les clauses punitives. Mais c'était temporaire. Le droit de régner sur Israël appartenait toujours à la maison de David, et un jour Dieu le lui rendrait. Ézéchiel 21h31-32, la couronne sera enlevée, en attendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. De nombreux passages dans les prophètes assuraient aux Juifs que leur ancienne souveraineté leur serait restaurée, Michée 4, 8, qu'un descendant de David siégerait à nouveau, que les païens, qui avaient foulé aux pieds Sion, viendraient leur demander humblement d'être instruits dans les voies du Seigneur. C'est sur cette espérance lumineuse d'un règne davidique restauré que se termine l'Ancien Testament. Le règne de Dieu dans les Évangiles 400 ans après la clôture de l'Ancien Testament, les promesses que Dieu y avait faites commencent à se réaliser. Il n'y a aucune discontinuité entre le programme prophétique annoncé dans l'Ancien Testament et ce que nous voyons se passer dans les Évangiles. Il est essentiel pour nous de garder ce fait à l'esprit en examinant ce qu'enseignent les Évangiles au sujet du règne de Dieu. Nous allons relever de cet enseignement 11 points qui sont cités par Jim Gigan dans The Reign of God. 1. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles est lié intimement et spécialement aux Juifs, il intéresse d'abord et avant tout le peuple d'Israël. Le caractère juif du règne ressort clairement du récit évangélique même avant qu'aucune prédication ne soit adressée au peuple. A. L'ange Gabriel annonce ainsi à Marie la naissance d'un fils. Luc 1h32-33, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. L'autorité royale de Jésus s'étendra sur toute la maison de Jacob, c'est-à-dire sur toutes les 12 tribus d'Israël, celles de l'ancien royaume du Nord aussi bien que Juda. Jésus sera le roi des Juifs. B. Marie célèbre la conception du Messie en ces termes, Luc 1h54, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Dieu n'avait pas oublié son peuple, malgré toutes les épreuves que celui-ci avait méritées et subies. Il est intervenu en faveur d'Israël en lui envoyant Jésus, celui qui sauverait son peuple de ses péchés. C'est Zacharie, père de Jean le baptiseur, prononce cette prophétie, Luc 1, 68, 70, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. » Le salut est considéré ici et généralement dans les évangiles surtout au point de vue du peuple juif. D. Le vieux Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire le roi un pour régner sur Israël. Il dit ceci en tenant dans ses bras le bébé Jésus, Luc 2h30, 32, « Car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » L'Ancien Testament prédit le salut des païens, mais ne l'envisage que comme le résultat de la réalisation des promesses faites aux Juifs. Que, la prophétesse Anne, ayant entendu Siméon, se réjouit. Luc 2h38, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Jérusalem personnifie ici tout le peuple juif. De tous ces passages et d'autres encore, nous apprenons le caractère essentiellement juif du règne. Le Christ était un juif, envoyé aux juifs pour être le roi des juifs et accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres des juifs. Voir aussi, Matthieu 8h11-12, 15h24-26, 21h43, 10, 5-7, etc., 2. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles est lié directement à l'alliance faite avec Abraham. Marie et Zacharie font ressortir ce rapport en louant Dieu pour avoir envoyé le Messie. Luc 1h54-55, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Luc 1, 72-73, ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. 3. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles est davidique. C'est ce que déclare formellement Gabriel, Luc 1h32, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Fils de Dieu, il recevra de Dieu, véritable chef d'Israël, le trône de David. Il y a droit à double titre, comme fils de Dieu et comme fils de David. » 4. Le règne dont parlent les évangiles est un règne restauré. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est le règne de David qui devait revenir à la fille de Jérusalem, Michée 4, 8, la restauration au roi légitime de l'autorité royale de David, Ézéchiel 21h28. 5. Le règne dont parlent les évangiles suivait un programme prophétique et son avènement était, selon cet horaire, proche. Marc résume ainsi la prédication de Jésus, Marc 1h15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Jésus connaissait bien les prophéties de l'Ancien Testament, si bien qu'il n'aurait pas pu se tromper sur ce point. Il affirme que le temps est accompli, c'est-à-dire que l'époque fixée par Dieu depuis toute éternité pour l'avènement du règne est arrivée. Selon Daniel 2, en effet, nous savons que le règne messianique serait établi pendant les jours de l'Empire romain. L'heure était venue, et ce règne était alors proche. L'idée selon laquelle l'Ancien Testament désignerait le XXe siècle comme époque de l'avènement du royaume est donc complètement fausse. 6. Le règne dont parlent les évangiles est universel, englobant les païens aussi bien que les juifs, et les morts aussi bien que les vivants. L'Ancien Testament avait prédit que les païens participeraient aux bienfaits messianiques, mais n'avait pas expliqué en détail le rapport qui existerait dans le royaume entre le juif et le païen. En effet, toutes les prophéties parlaient de la bénédiction des païens lorsque ceux-ci viendraient rendre hommage aux juifs ou être instruits de lui, Ésaïe 2, 1 à 5, 11, 1 à 11, 49, 6, Zacharie 8h20-23, etc. Les évangiles n'expliquent pas non plus le rapport exact entre le juif et le païen, mais indiquent quand même que les païens seraient invités à se joindre à Abraham et ses enfants dans le royaume. Matthieu 8h11-12, « Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » Royaume des cieux est synonyme de royaume de Dieu, le terme cieux étant communément employé chez les juifs pour désigner le nom divin. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout ce que nous apprenons des évangiles, c'est que les païens entreront dans le royaume, il faut attendre le livre des Actes et les Épîtres pour découvrir qu'ils y seront admis sur un pied d'égalité avec les juifs. Nous reviendrons plus loin à cette question importante. Le Messie régnerait non seulement sur des non-juifs mais aussi sur des gens en dehors de ce monde. Il régnerait sur son père Abraham. Nous avons là un indice de la gloire du Christ, son règne ne pourrait pas être restreint, ni dans la vie, ni dans la mort physique. Il devait régner sur les vivants et les morts. L'universalité du règne du Christ sera développée plus amplement dans les Épîtres. 7. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles est parfois envisagé comme englobant des méchants aussi bien que des justes. Nous avons lu dans Matthieu 8h12, « Mais les fils du royaume seront jetés, dehors. » Jésus les dépeint comme étant présents au festin mais ensuite comme étant jetés dehors. Dans la parabole de l'ivraie, il dit, Matthieu 13h38, « La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du mal. » Et au verset 41, « Le fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Il existe donc deux catégories de fils du royaume, A, les fils méchants du royaume. Il s'agit des juifs incrédules qui avaient été les héritiers en puissance du règne en vertu de leur descendance d'Abraham et de leur appartenance au peuple d'Israël. Mais par le rejet du Christ, ces juifs ont montré qu'ils n'appartenaient pas à Abraham, ni au vrai Israël. Jésus leur dit dans Jean 8h37, 44, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais, vous avez pour père le diable. » On trouve la même idée dans Romains 9, 6, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Paul appelle ces juifs incrédules les branches naturelles qui ont été retranchées de l'olivier, Romains 11h16 24, tout comme les fils du royaume ont été jetés dehors et que l'ivraie a été arrachée du champ. À la conclusion de la parabole des vignerons, Jésus dit aux dirigeants juifs incrédules, Matthieu 21h 43, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Puisque Jésus dit que le royaume leur sera enlevé, cela voudrait dire que le royaume leur avait, dans un certain sens, appartenu. Dans quel sens? C'est qu'ils étaient les branches naturelles, c'est-à-dire descendants d'Abraham et israélites selon la chair. C'est à eux que Dieu avait fait les promesses, Romains 9, 3 à 5. Ces promesses, par contre, devaient être reçues par la foi, les juifs incrédules n'y auraient aucune part, B, les fils du royaume approuvés de Dieu. Qui sont-ils? Ce sont aussi des juifs, ceux qui ont cru au Messie. Bien qu'une petite minorité, ce reste fidèle reçoit le règne et constitue la nouvelle nation d'Israël, Matthieu 21h 43, Actes 3h 23. Luc midi 32, 60 crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Romains 11, 7, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, les autres ont été endurcis. Voici donc, sous forme de schéma, la situation du règne décrit dans les évangiles. Le problème de la grande majorité des juifs, c'est qu'ils tiraient tant d'orgueil d'être les gardiens de la loi, qu'ils ne voulaient pas la lâcher. Ils cherchaient le règne non par la foi, mais par l'alliance mosaïque, la loi. Ainsi ils ont manqué les bienfaits messianiques qui leur avaient été promis, et ils ont montré par leur incrédulité qu'ils n'étaient pas de vrais juifs, ni de vrais enfants d'Abraham, Romains 9, 6 à 7. Quant au vrai peuple d'Israël, les païens seraient invités à s'y associer et deviendraient avec lui co-héritiers de ses avantages spirituels, Romains 11h 16 25. 15h 27, Éphésiens 2h 19 22. Voilà donc, en quelque sorte, les schémas numéro 1 et numéro 3 superposés. Règne universel. Schéma numéro 4, le vrai Israël 8. Le règne dont parlent les évangiles appartient au Christ et à Dieu. Jésus l'appelle indifféremment le règne de Dieu et mon règne, Matthieu 13h 41. 16h 28, Luc 22h 30, etc. Ce règne est donc universel et englobe toutes choses et toutes personnes. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 9. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles comporte certaines conditions qu'une personne doit remplir pour y être admise. De nombreux passages nous viennent à l'esprit, mais nous n'en citerons que quelques-uns. Jean 3, 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus pose ici deux conditions pour être admis dans le règne de Dieu, être instruit et engendré par l'esprit, et être immergé dans l'eau. Matthieu 5h20, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Selon Jésus, le royaume est réservé aux pauvres en esprit, Matthieu 5, 3, beaucoup chercheront à y entrer mais n'en seront pas capables, Luc 13h 24. Posez-vous maintenant la question, si le règne de Dieu est universel et englobe les méchants aussi bien que les justes, comment se fait-il qu'il faille remplir certaines conditions pour y entrer? La solution n'est pas très difficile. Les passages que nous venons de citer n'ont trait au règne que sous son aspect particulier. Ils parlent de la position de faveur dans le règne, du règne particulier à l'intérieur du règne universel. Dieu remet à Jésus son pouvoir universel dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28, 18, si bien que tous les hommes deviennent sujets du Christ. Et pourtant, certains de ses sujets ont dit, « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Luc 19h14. D'autres sujets, par contre, l'ont reçu comme roi d'Israël, Jean 1h49. En le recevant comme Seigneur, ceux-ci changent d'état, au lieu d'être simplement des sujets, ils deviennent des sujets volontaires. Ils constituent un royaume à l'intérieur d'un royaume. Il ne suffit donc pas d'avoir le Christ pour roi, car son règne, au sens le plus large du terme, englobe déjà toute chose et toute personne. Il faut se soumettre volontairement à lui pour lui obéir. Le règne de Dieu, sous sa forme la plus élevée et la plus pure, s'exerce dans le cœur de ses sujets obéissants. 10. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne peut signifier que le Christ ne règne pas sur les choses matérielles, les étoiles, les continents, etc. Point virgule car il règne sur tout l'univers physique. Cela ne peut signifier non plus qu'il règne seulement dans le cœur des justes, ceux qui obéissent à ses commandements, car Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair, Jean 17, 2. Cela ne peut signifier que Jésus ne règne pas sur les nations, car Dieu lui a donné toute autorité sur elles, Apocalypse 3h24-25. Jésus est le souverain des rois de la terre, et le roi des rois. Qu'entendons-nous donc par l'affirmation, le règne de Dieu est spirituel? Relevons-en quelques données dans l'enseignement de Jésus lui-même. A. Le règne de Dieu concerne principalement, mais pas exclusivement, les choses intérieures de l'homme et non pas les choses extérieures. Luc 17h20-21, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, « Voyez, il est ici, ou, il est là. » Car, « Voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Jésus ne nie pas le caractère extérieur du règne, il souligne simplement son aspect intérieur. Car les pharisiens ne concevaient le royaume qu'en fonction d'une victoire militaire sur leurs ennemis, refusant d'admettre que le but principal du règne était une victoire remportée au-dedans de l'homme. Romains 14h17, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Dieu règne déjà extérieurement sur l'homme, mais il veut régner sur lui de l'intérieur. B. Le règne de Dieu ne s'exerce pas selon les principes charnels du monde. C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean 18h36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Jésus n'est pas parvenu au trône comme ceux qui cherchent le pouvoir dans le monde, par la violence, la traîtrise, le sang et le feu. Lui, il est devenu roi par le sacrifice de lui-même pour les autres. C. Le règne de Dieu a pour but une nouvelle création formée de personnes qui se sacrifient au service des autres. Jésus met ces deux notions, celle du règne et celle du service, en rapport dans Jean 13, 3, 5. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, se mit à laver les pieds des disciples. Voir Jean 13h12-16, Luc 22h24-27. 11. Le règne de Dieu dont parlent les évangiles devait inclure les apôtres assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc 22h28-30, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Les apôtres partageraient l'autorité royale du Christ, ils auraient une part de son pouvoir sur Israël. Les apôtres ont-ils jugé Israël? Bien sûr, et ils le jugent toujours. C'étaient les apôtres qui avaient le pouvoir de lier et de délier sur la terre parce que Jésus leur avait donné les clés du royaume, Matthieu 16h19, 18h18. C'étaient eux qui avaient le droit de pardonner ou de retenir les péchés, Jean 20h23. C'étaient les apôtres qui déclaraient aux Juifs, Actes 3h23, « Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Les apôtres déclaraient exclus du peuple tous les Juifs qui rejetaient Jésus-Christ, ils les déclaraient jetés hors du royaume. Mais de quel peuple ces Juifs incrédules étaient-ils coupés? Il ne peut s'agir d'Israël selon la chair, car les Juifs étaient toujours descendants de Jacob, qu'ils acceptent Jésus ou non. Il s'agit plutôt du nouvel Israël créé en Christ et composé de Juifs croyants. Ils n'étaient pas païens, Jérémie 31:31-S n'a pas les non-Juifs en vue. Jérémie 31:31, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. une nouvelle alliance devait entrer en vigueur, avec un nouveau sacerdoce, un nouveau système de sacrifice, un nouveau médiateur, un nouveau peuple. Les 12 apôtres étaient le fondement de ce nouvel Israël, de cette nouvelle nation à laquelle le royaume serait donné. Cette nouvelle communauté serait juive et accomplirait les promesses faites dans l'Ancien Testament aux Juifs. Le mot Israël a donc deux sens dans le Nouveau Testament. 1. La nation d'Israël selon la chair, et 2. Le reste fidèle à l'intérieur de la nation, les Juifs fidèles qui ont accepté le Messie et sont devenus le nouvel Israël. Romains 9, 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Les païens seraient invités à se joindre à ce nouvel Israël fondé sur la nouvelle alliance. Éphésiens 2h19. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints. Les saints ici sont le reste fidèle d'Israël. Dieu avait toujours voulu offrir aux païens le bonheur du royaume, mais souvenons-nous de l'ordre, aux juifs premièrement, puis aux grecs, Romains 1h16, Actes 1, 8, 3h26, 13h46. Nous, les païens croyants, branches sauvages, avons été greffés sur l'olivier franc pour participer aux avantages spirituels des juifs, Romains 11h16-24, Éphésiens 2h12-16.